Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Trio Singulier Pluriel avec
Poussette Zvani
et Arlette Farah. Et Poussadi, notre invitée d'aujourd'hui n'est nul autre que Martine Ouellet. Bonjour Martine.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous rencontrer, chef du Parti Climat Québec. Et puis avec elle, nous allons parler environnement. Mais pour l'instant, on part en musique.
Quelqu'un m'a dit que tout autour de mon nombril se trouve la vie. La vie des autres, la vie surtout de ceux qui meurent faute de nous. Qu'il faudrait qu'il pleuve ou il ne pleut guère, qu'il faudrait un fleuve ou 600 rivières. Et moi j'étais sur moi alors, j'écoutais couler dans mes veines. Les vaisseaux et mes anticorps depuis des mois, des années.
Alors Martine, bonjour.
Bonjour.
Alors, je t'explique, Poussadi, j'ai été récemment, donc j'ai reçu un artiste qui s'appelle Jean-François Fabiano, et puis il m'a parlé beaucoup de Martine Ouellet, j'ai été à son spectacle, et puis je l'ai rencontré, et puis il parlait beaucoup de ce qu'elle faisait et de sa vision de l'environnement, et moi ça m'a donné le goût, j'ai été la voir, j'ai dit « je pourrais vous inviter ?»
Mais t'as bien fait, et j'ai hâte d'en découvrir.
Et gentiment, elle m'a dit oui. Bon, ça a pris un peu de temps, mais on y est arrivé, voilà. Alors, bonjour Martine Ouellet. L'environnement et Martine Ouellet, est-ce que c'est une histoire d'amour qui date de tout le temps ou c'est venu avec le temps? Tu sais, parce qu'on est tous en train...
Qui date de très, très longtemps.
Ah oui?
Qui date de 1987-1988.
Ah oui, quand même.
Et en fait, ça a commencé Moi, j'ai lu un livre qui s'appelle « Notre avenir à tous », qui était le rapport Brundtland. Le rapport Brundtland, c'est l'ancienne première ministre de Norvège, Madame Brundtland.
Ah, ça me disait quelque chose.
Et c'est le rapport qui a mis au monde, on
déclenché
pourrait dire, le développement durable. Le mot développement durable n'existait pas avant. En fait, c'est mal traduit. Sustainable development, qui aurait dû être développement soutenable. C'est pas tant que ça doit durer, c'est que ça doit être soutenable par rapport à la capacité de la nature. Ça aurait été une meilleure traduction. Et c'est à partir de ce moment-là où moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'environnement. Et j'ai travaillé beaucoup dans les milieux économiques. Et quand on dit on va parler d'environnement, mais en fait, l'environnement, c'est pas juste l'environnement.
C'est quoi, en fait, l'environnement? Parce qu'on englobe tellement de choses là-dedans.
Ben, l'environnement, oui, c'est l'espace où on vit, c'est la nature. Mais quand on parle de Climat Québec puis d'agir sur les changements climatiques, le climat, ce n'est pas que l'environnement. C'est aussi tout le développement économique. Donc, il faut faire des choix différents de développement économique. On ne peut plus se permettre de continuer dans le gaz puis dans le pétrole. Mmh. On ne peut plus surexploiter nos forêts comme on le veut. Fait que c'est aussi les ressources naturelles. C'est aussi la santé. Parce que lorsqu'on pense, avec les changements climatiques, il va y avoir, il y a une montée des maladies. Il y a une montée des insectes. Les tiques, on n'en avait pas avant au Québec. La maladie de Lyme, on n'en avait pas au Québec. Et c'est monté tranquillement avec la chaleur. Donc, les pandémies vont être exacerbées avec les changements climatiques parce qu'il va y avoir plus de proximité avec les animaux sauvages parce qu'on est en train de tout utiliser leurs habitats. Donc, tout ça est lié. Fait que ce n'est pas que l'environnement.
D'accord. Alors, c'est...
C'est les transports aussi. Oui. J'oubliais les transports qui est un gros, gros morceau.
Il y a plein de choses qui ont changé parce que moi, j'ai des souvenirs de... Non pas au Québec, hein, parce que je suis née en France, mais en France, de petites filles où... Moi, j'avais le droit de la manger, la terre, enfin, de m'amuser avec. Rien n'était aseptisé et je suis encore là.
Bien, c'était pas les mêmes polluants qu'aujourd'hui non plus. Oui, il y était une époque aussi. Ici où on se baignait dans le fleuve Saint-Laurent, où l'eau n'était pas aussi polluée qu'aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'avec le temps où on n'a pas surveillé l'utilisation des produits chimiques, des engrais, des pesticides qui se retrouvent aussi souvent dans l'eau souterraine, j'ai été 10 ans à la coalition au secours, donc je me suis beaucoup intéressée aux questions de tout ce qui est la gestion de l'eau. J'ai été aussi à l'initiative, c'est moi qui ai écrit la politique nationale de l'eau dans le programme du Parti québécois à l'époque, qui a été voté ensuite en 2002 là, par le Parti québécois, mais elle avait été réfléchie par des militants avant qu'elle aboutisse là. Et c'est quasi mot pour mot ce que j'avais préparé dans le programme. Donc, c'est ça, c'est des questions auxquelles je réfléchis depuis longtemps. Et il y a beaucoup de solutions. Et c'est ça qui est encourageant d'un côté et qui est désespérant de l'autre, parce que les solutions sont à portée de main. La technologie est là, l'argent est là. Tout ce qui manque, c'est de la volonté politique.
Hmm. Alors, si on fait... abstraction du côté politique de la chose, parce qu'on en a besoin des politiques, ça c'est évident, mais comment, qu'est-ce qu'on peut faire nous dans notre... Parce qu'il y a plein de choses qui se créent, il y a plein d'initiatives chez les jeunes, c'est hallucinant, j'adore ça, je trouve ça très, très fort et très beau.
Toutes ces initiatives-là, individuelles, personnelles, sont très bien. Mais ça ne sera jamais suffisant.
Oui.
C'est pour ça que la solution, elle est politique. On se dit, on ne veut pas parler de politique parce que la politique, avec le temps, a été beaucoup dénigrée. Moi, je dis, il y a deux sortes de politiques. Il y a la politique avec un grand P, qui est les grands gestes d'État, de la gestion de l'État. Et il y a la politique avec le petit P, qui est la politicarie, le bavassage, les coups de couteau dans le dos, etc., etc. Et malheureusement, la politique avec un
petit P est
un vrai parasite à la politique avec un grand P, dont la politique avec un grand P n'est jamais capable de se débarrasser. Mais une fois que j'ai dit ça, si on veut vraiment agir, parce que là, on est vraiment, la crise climatique, elle est commencée. Pendant l'été, on a vu toutes les périodes de chaleur. Déjà au mois de mai, on avait des grands épisodes de très grande chaleur qu'on n'avait jamais connus avant, des 30 degrés, etc. Donc, il faut être conscient que la crise, elle est déjà commencée. Et si on veut agir, le meilleur outil, c'est l'État. C'est l'État par des lois et des règlements, par des politiques. Et ensuite, on peut demander aux gens de faire leur part. Mais moi, personnellement, je serais bien gênée de demander à chacun des individus de faire leur part si l'État, qui a le plus gros morceau sur lequel elle peut agir, n'agit pas. Mm-hmm. Comme on va donner un exemple qui est un petit peu en dehors du climat, le recyclage. Les citoyens la font leur part. Ils divisent leurs déchets.
Oui.
Mais presque tout le recyclage se retrouve en enfouissement.
Ben oui.
Comme si le travail n'avait pas été fait. Et donc, l'État ne fait pas son travail. Mm-hmm. Ce n'est pas normal. Donc, moi, je veux qu'on arrête de culpabiliser les individus, puis plutôt de s'outiller et que l'État agisse, puis ensuite outiller les individus à agir. Moi, je crois que quand les individus sont outillés, ils ont ce qu'il faut pour agir, ils sont de bonne volonté.
Mais même au niveau des entreprises, là, des grosses entreprises, c'est là où le bas blesse aussi. Eux aussi doivent faire leur part, là, tu sais.
Clairement.
Nous, à la petite échelle, mais tu sais, ça fait quasiment pas de changement, là. On se comprend que...
Bien, c'est sûr que les gros changements sont dans les grandes entreprises. Puis encore là, j'ai travaillé avec le milieu industriel toute ma carrière chez Hydro-Québec. Encore là, il y a des diversités. Il y a des entreprises qui sont prêtes à agir, puis d'autres qui bloquent complètement. Mm-hmm. Mais c'est sûr que si... Il y en a une qui agit puis qui investit beaucoup pour diminuer ses gaz à effet de serre, puis l'autre ne le fait pas, elle va être avantagée compétitivement. Fait que c'est pour ça qu'il faut mettre de la réglementation pour obliger les récalcitrants à agir. Oui. C'est la même chose que je dis souvent, moi. Hein? Les dirigeants d'entreprise sont des humains comme vous, comme moi, et ce sont les mêmes qui sont sur les autoroutes.
Oui.
Si tout le monde respectait les règles, on n'aurait pas de besoin de police sur les autoroutes, hein?
Ah oui, tout à fait.
Bon, ben les dirigeants d'entreprise sont les mêmes conducteurs que ceux qui sont sur les autoroutes, c'est la même chose. Donc, il faut avoir des règles, puis il faut avoir des gens pour les respecter, parce que les règles, c'est loin d'être suffisant, parce que si c'était suffisant, on n'aurait pas de police sur nos autoroutes.
Oui, c'est ça aussi. Et c'est vrai que quand on dit, je regarde un petit feuilleton en France, puis cet été, ça passait des épisodes où justement les élèves de la classe étaient très portés sur ce qu'il fallait faire et pas faire, et que dans les familles, ils étaient tous « oui, c'est bien. Ah oui, mais il ne faut pas que tu achètes une grosse voiture comme ça, parce que regarde ce que ça dépense, regarde ce que ça fait. Il ne faut pas que tu restes dans ta douche pendant 20 minutes et tout. » Et là, c'était « tu viens me chercher dans ma vie privée. » c'est plus gênant.
Oui, mais maintenant, on parle d'éducation, mais c'est les parents aussi. C'est comme on arrive dans une société où on surconsomme.
Ah oui.
Et on arrive au bout de l'humanité, ce que j'explique à mes enfants. Combien d'appareils as-tu besoin de renouveler à chaque année, à chaque 2 ans? Tu sais, tout ça aussi, là...
Tu parles des téléphones,
ben,
des choses...
Oui.
C'est sûr qu'il y a de la sensibilisation à faire. Mais toute la philosophie dans laquelle on vit... du développement à tout prix, du développement infini, comme des ressources à l'infini, comme s'il y allait avoir des retombées pour tout le monde. C'est le néolibéralisme, là. Ça ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné, ça ne peut pas fonctionner. Fait qu'il faut faire notre deuil de ça. Il faut dire que ça ne fonctionne pas. Il faut arrêter d'accepter de fonctionner dans ce système-là qui ne fait qu'enrichir les plus riches et appauvrir les plus pauvres. Et on a un sacré coup de barre à donner parce que les plus riches ne laisseront pas faire.
Hein? Mais non, c'est sûr.
Ça, c'est sûr. Quand on est ancré dans des habitudes, on va pas faire des cadeaux quand on ne nous les demande pas. C'est ça.
C'est pas juste des habitudes. Ouais. C'est du pouvoir. Ouais, c'est de l'argent. Et les seuls qui peuvent faire face à ces grosses corporations-là, ce sont les États. C'est pour ça que c'est si important d'avoir le contrôle de l'État et de ne pas le laisser entre les mains de gouvernements qui sont à la merci de ces grosses corporations-là,
oui,
puis qui n'arrêtent pas de se mettre à genoux. Mettre à genoux et même dans certains cas, de licher leurs bottes.
Oui,
donc,
aussi.
À un moment donné, quand...
Ça, c'est pour garder leur zone de confort.
Il faut arrêter. On va faire une pause musicale, puis on revient tout de suite après.
Non, je n'oublierai jamais la bête. La couleur du ciel, le nom du Corcovado, l'arôme du Rera, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allée. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connue, où nous avons dû nous séparer. Aussi peu de temps et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour, toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais Non, je n'oublierai jamais ce jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais rien.
Alors, on revient avec Martine Ouellette. Ça dit, je vois que tu es très intéressée par, par tout ce que Martine a à nous dire.
Oui,
moi aussi, d'ailleurs.
Oui, c'est intéressant ce qu'elle propose aussi, de le voir d'un autre œil aussi, puis de pouvoir échanger directement avec quelqu'un qui a baigné dans la politique aussi, puis son regard de politicienne et de... C'est de citoyenne aussi, puis de nous pouvoir
échanger. Moi, j'ai envie de revenir sur l'avant. Martine, la politique, moi, j'ai rêvé de bien des métiers, mais pas de la politique.
C'est pas un métier, hein?
C'est pas un métier, c'est une vocation.
C'est une vocation, ouais. Et ce n'est pas un métier, parce que je pense qu'on ne peut pas rester en politique si on n'y croit plus. Il faut être capable d'avoir un autre métier que la politique. Moi, je suis ingénieure mécanique de formation. J'ai travaillé une vingtaine d'années chez Hydro-Québec.
Oui.
Et j'ai fait de la politique partisane avec le Parti québécois. En 2000, j'ai quitté le Parti québécois parce que Lucien Bouchard était beaucoup trop néolibéraliste pour moi. Il voulait privatiser l'eau à Montréal. Pareil comme ce qu'on a vu en France, là, avec les grandes géants françaises d'ailleurs, là, qui étaient assez corrompus, merci. Et ensuite, je suis allée au secours, ce que j'appelle la politique citoyenne. Ça, c'était mon occupation bénévole.
D'accord.
Jusqu'en 2010, jusqu'au jour où Pauline Marois est venue me chercher. Et Pauline, j'avais eu une belle complicité avec lui, avec elle, une belle collaboration lorsque j'étais au Parti québécois. On a toujours gardé contact. Et donc, à sa demande, j'oserais même dire insistante, j'ai fait le saut parce qu'à l'époque, chez Hydro-Québec, j'avais des mandats assez extraordinaires et j'aurais voulu continuer, mais... L'appel du devoir, je trouve que c'est important comme individu de donner à la société. Et pour moi, la meilleure façon de donner, c'était de m'impliquer politiquement.
C'est ça. C'est, ça demande vraiment du...
Un don de soi, je dirais.
Oui, et puis en même temps, cette espèce de passion, puis de conscience. Est-ce que la conscience était déjà là chez vos parents, toute petite? On vous a fait prendre conscience de...
Un milieu politisé dans la famille ou...
Un milieu impliqué, je dirais.
Impliqué.
Donc, impliqué socialement. Mm-hmm. Ma mère, elle était professeure de cégep, mais elle était aussi très impliquée dans le quartier, dans les activités de quartier, pour permettre à tous les enfants, peu importe les revenus de leurs parents, d'avoir accès à des activités de céramique, de judo, de ballet jazz, de badminton. Donc,
l'esprit de communauté.
Vivant toujours comme ça, et effectivement, ça se comprend.
Mm-hmm. C'est ça. Et d'organiser des expositions pour les artisans, donc qu'ils puissent exposer, qu'ils puissent vendre leurs produits, se faire connaître. Donc, mon père était impliqué dans une coopérative alimentaire.
Ah oui?
Il y avait un Coprix, là, qui était un grand marché d'alimentation à l'époque, qui était une coopérative. Donc, oui, j'ai baigné dans ça. Il était aussi impliqué au niveau politique, militant politique, mais militant comme bien d'autres.
Oui,
il
n'était
pas impliqué là,
militant,
à
pas
haut niveau,
voilà.
Puis tout ça, là, mais militant. Il était indépendantiste, donc très jeune. Moi, j'étais dans le comté de René Lévesque, et René Lévesque, c'était notre député.
Ah oui.
Donc, j'ai même eu le bonheur de le rencontrer toute jeune. Là. Ouais, ouais.
Ouais. Moi aussi, mais je l'ai rencontré, mais c'était un voisin.
Ah. Ah, belle rencontre. Voilà, quelqu'un que j'aurais aimé croiser.
Vraiment.
Ou même interviewer. Qui sait, ça aurait été un grand plaisir. Qu'est-ce que ce serait votre souhait en enlevant tout ce qui est tout ce qui entoure la politique maintenant, aujourd'hui, etc. Simplement, on a envie de vous dire avec une baguette magique, quel serait votre souhait?
Avec une baguette magique?
Sans parler d'empêchement. S'il n'y avait pas d'empêchement, quel serait votre souhait premier pour le futur de tous?
Je dirais c'est le bien commun. J'aimerais ça qu'on revienne, parce que certaines époques au Québec, lorsqu'on a parlé du modèle québécois, l'État-providence, j'aime pas tellement ça, ce mot-là, providence, parce que c'est comme ça tombait du ciel,
oui.
Là. Mais qu'on revienne au bien commun. Donc, l'ensemble de la population, des services, qui a une préoccupation par rapport à ça, par rapport à la rigueur, par rapport à des services de qualité. On en a déjà eu, c'est pas normal qu'on n'en ait plus. C'est parce que ça s'est perdu dans le temps, parce que l'intérêt est devenu à des intérêts plus corporatifs que des intérêts du bien commun. Puis, en politique, il y a toujours un peu des deux, mais il y a une époque qui avait plus d'intérêts de bien commun, puis maintenant, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus et très peu d'intérêts de bien commun. Et ça, c'est pas normal, parce qu'un État n'est pas au service des corporations. Les corporations, ce ne sont pas des individus, là. État est au service de sa population. Donc, si j'avais un coup de pied à ce moment-là, lorsque le bien commun est là, bien, après ça, peu importe, les gens vont travailler à améliorer les choses, que ce soit pour le climat, que ce soit pour les autres enjeux. Puis c'est sûr qu'à court terme, la plus grande crise qui nous menace, c'est pour ça qu'on a fondé le parti politique, c'est la crise climatique.
Oui.
On ne peut pas passer à côté. Les gens font comme si ça n'existait pas actuellement. Et ce qui est dommage, c'est que les gestes à poser, particulièrement au Québec, ce ne sont pas des gestes difficiles à faire. Sortir le pétrole et le gaz des usines, c'est pas difficile.
Mais ça fait une sacrée perte de pouvoir et d'argent.
Non? Ben oui, ça va faire perdre l'argent aux pétrolières, ça va faire perdre l'argent aux gazières, mais ça va en faire gagner à d'autres.
Oui, c'est
donc
ça.
C'est juste un changement d'intérêt. Et si ça se fait pas, c'est à cause des gros lobbies. Et ces lobbies-là ont beaucoup trop de pouvoir au sein du gouvernement et ce n'est pas normal. Par exemple, René Lévesque avec Jacques Parizeau n'aurait jamais nationalisé l'électricité s'il avait plié face aux lobbies.
Oui.
Parce que c'était des très gros lobbies, les compagnies de production privées d'électricité à l'époque. Donc, c'est pas dans toutes les époques que les politiciens pliaient face aux lobbies, là.
Mais c'est drôle, tu parles de bien commun. Ah, oh, je m'excuse, je t'ai tutoyé,
Martine. Non, c'est bien correct, c'est bien correct.
Non, mais le bien commun, il faudrait bien aussi l'aborder au niveau de l'immigration. Comment, avec tous ces nouveaux arrivants, arrivent à comprendre ce concept-là? De bien commun, comment on valorise bien cette entrée-là pour eux, tu sais, pour pouvoir
moi, je pense
justement
ça, ça c'est une grande question, mais
Québec de
on
demain,
va faire
là,
le...
c'est ça, là, tu sais, cette intégration-là.
On va faire la pause et puis on y répond tout de suite après, parce que Martine, on va laisser à Martine le temps d'y réfléchir dessus, même si elle a déjà sa réponse. En plus, on fait la pause et puis on revient tout de suite après ça.
Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais, Je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit, je sais, ça y est, cette fois, je sais. Puis aujourd'hui, des jours où je m'en retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait des 100 pas. Je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, les sous. Tiens oui, l'amour, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme des copains, j'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3 ou 4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie, moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement, plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis, les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.
Restez avec nous dans la prochaine demi-heure. Martine Ouellet répond à la question de Poussadi. Elle a déjà la réponse, je le vois dans ses yeux. Mais elle va attendre qu'on revienne pour en parler. À tout de suite.
Bye.
Alors maintenant, Martine Ouellette répond à la question de Poussadi. Qui était?
Bien, en fait, tu parlais de bien commun que je trouve fort intéressant, puis que c'est vrai qu'on est dans le partage, la communauté, ce sentiment-là qu'on veut partager avec des nouveaux arrivants. Puis je me demande juste comment on pourrait bien le faire. C'est parce que je trouve que ça se fait pas, là. Je le sens pas présentement au niveau de la politique, la politique d'immigration. Je trouve qu'ils sont mal accueillis, je trouve qu'ils sont pas bien intégrés. Moi, je pars de loin, moi, je suis une immigrante, mais je suis arrivée dans les années, 70, où on avait des gens affiliés avec les églises, et il y avait de la communauté qui venait nous chercher, qui nous intégrait dans l'histoire du Québec, et c'est comme ça qu'on s'est attaché à ce Québec-là en entendant ces histoires-là. Mais aujourd'hui, ils arrivent, ils sont laissés à eux-mêmes, ils sont placés dans des YMCA, puis là, ils se ghettoisent parce qu'ils se tournent vers leur communauté. Mais comment on peut arriver à partager le bien commun là, dont tu parles avec tous ces nouveaux arrivants-là pour faire ce Québec de demain, en fait?
Mais moi, je pense que c'est une question extrêmement importante avec les changements climatiques. Mm-hmm. Nous, ce qu'on dit à Climat-Québec, va même falloir reconnaître une nouvelle catégorie de réfugiés, les réfugiés climatiques. Ce n'est pas reconnu actuellement. Et donc, il risque d'en avoir encore plus, là, des réfugiés. Et le mot-clé, je crois, c'est l'accueil.
Mm-hmm.
Et je suis tout à fait d'accord avec toi. On se permet de se tutoyer. Il n'y en a pas d'accueil actuellement. Et c'est un vrai gros problème. Et moi, je pense qu'en... en créant la République du Québec, en sortant du Canada. Et là, on est pris entre deux paliers de gouvernement qui sont en conflit permanent, qui ont deux visions complètement différentes de l'immigration. Le Canada a une vision extrêmement ghettoisante de l'immigration avec le multiculturalisme, hein, c'est de traiter les gens en fonction de leur origine ethnique, de leur religion. Donc, c'est très ghettoisant. Et le Canada a toujours une politique d'immigration pour... assimiler, entre guillemets, les Québécois pour réduire le poids des Québécois et ça rentre directement en conflit avec ce qui se passe au Québec. Donc, une fois qu'on va rapatrier l'ensemble de nos pouvoirs avec la République du Québec, on va pouvoir avoir une vision cohérente qui ne sera pas toujours en conflit et se donner les moyens d'accueillir les immigrants. On a déjà eu au Québec ce qu'on appelait les COFI.
Mm-hmm. Ah oui, oui, bien sûr.
Et qui était un endroit où les immigrants arrivaient, pouvaient apprendre le français, mais pas juste le français, l'histoire, les actualités, comment ça se passe, justement, là, tu sais, le bien commun, puis tout ça, c'est quoi, comment ça se passe au Québec, la vision. Et malheureusement, c'est même le Parti québécois qui a mis fin au COFI, c'est une vraie horreur, là. Mm. Et il reste que quelques morceaux de ça, mais c'est pas suffisant là, pour être capable d'accueillir l'ensemble des immigrants. Donc, il faut se donner les moyens et permettre que ce soit les immigrants économiques ou les réfugiés politiques ou la réunification familiale, qu'une fois qu'ils arrivent au Québec, qu'ils puissent apprendre la langue commune. C'est important pour échanger avec l'ensemble de la population. Et pour ça, il faut leur donner les moyens parce qu'il faut faire ça à temps plein. Ils ne peuvent pas faire ça un soir par semaine. Ils n'y arriveront jamais.
Mais non, mais ils sont dans l'urgence de nourrir leur famille.
C'est ça. Donc, il faut qu'il y ait des revenus pendant qu'ils sont à l'école et qu'après ça, ce centre-là, comme un COFI, peut même les aider à se trouver un emploi parce qu'ils sont en lien avec des employeurs. Mais on a laissé ça complètement aller. Puis même, je dirais qu'actuellement, c'est pire que pire parce que les délais de traitement des différentes demandes, c'est indécent. Moi, personnellement, là, je trouve ça gênant de voir la machine canadienne, parce que c'est le fédéral, avoir des si longs délais. Je ne trouve que ce n'est pas respectueux des personnes. Ce n'est pas normal. Et c'est tellement facile à régler. Ils n'ont rien qu'à embaucher du monde. Misère, qu'est-ce qu'ils attendent, là, tu sais?
Non, mais par rapport au changement climatique, eux autres, ça pourrait être des super alliés parce que moi, quand mes parents sont arrivés ici, ils n'avaient pas autant de ressources qu'au Québec. Là, on se comprend, des produits ici, il y en a à tonnes. En Asie du Sud-Est, tout était limité. Là. Maman, elle récupérait tout, les sacs de plastique, elle les rinçait. Vraiment, chaque papier d'aluminium, elle les... Puis moi, j'étais la seule là, dans ma gang là, qui faisait ça. Mais ma mère, elle avait cette vision-là déjà de l'écologie, de ce que c'était, de ne pas surconsommer, de ne pas acheter, acheter, acheter. Alors, tu sais, c'est ça où c'est des alliés, ces immigrants-là, ils arrivent, justement, je dis pas nécessairement du tiers-monde, mais ils arrivent avec une autre culture, une autre façon d'aborder.
Des connaissances qui apportent plus. Avec des ressources plus limitées. Et on va devoir apprendre ici à vivre avec des ressources plus limitées. Ça veut pas dire que notre qualité de vie va en souffrir.
Non.
Parce qu'actuellement, on utilise beaucoup trop de ressources, puis on dépasse même nos besoins, ce qu'on appelle le gaspillage, la surconsommation. Oui. Donc, c'est un apprentissage qui va être... Effectivement, c'est un apprentissage qui est super important et intéressant. Là.
S'il n'existait pas ce gaspillage, c'est-à-dire qu'avec le gaspillage qui se fait dans les pays où on a tout ce dont on a besoin, pourrait nourrir ceux qui sont en manque.
Complètement.
Donc, c'est quand même fou. C'est fou. C'est comme une crêpe qu'on renverse, quoi. On pourrait étaler, faire un partage, alors qu'on manquerait de rien quand même. Pourquoi est-ce qu'on a si peur de lâcher?
Je ne pense pas que quand on dit « on », ça dépend, c'est qui le « on »
Pourquoi est-ce que dans la généralité, quand on parle de faire des efforts, alors je vais tourner ma question autrement, quand on parle de faire des efforts et de partage, il y a des personnes qui réagissent comme si on leur enlevait déjà quelque chose qui est important chez eux, alors que c'est pas ça, c'est juste le surplus.
Ouais,
on a l'air de pas comprendre, quand je dis « on », je dis en tout cas certains, puisque ça se fait pas encore, on a l'air de pas comprendre que le partage, c'est pas, ça n'enlève rien à ce dont tu as besoin quand tu vis, c'est juste ce qu'il y a en trop, tu le donnes.
Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus accepté que ce qu'on pense.
D'accord.
Quand on regarde dans les jeunes générations, oui. Ils sont exactement là.
Oui.
Je crois que les messages médiatiques qui sont diffusés par les principaux médias, toutefois, eux, sont complètement à l'encontre de ça.
Ah, mais d'accord.
Et c'est des messages qu'on entend régulièrement parce que ces grands médias-là, ils ont des propriétaires et la consommation fait partie de leur profit. Donc, je pense qu'il y a vraiment un décalage de plus en plus entre ce que la population serait prête à faire et le genre de grand message généralisé qui est diffusé. Donc, moi, j'ai plus d'espoir, j'ai plus foi en l'humanité que ça, et même en la population plus spécifique québécoise. Oui. Je crois qu'ils sont prêts à faire bien des choses, mais ils ne veulent pas le faire dans le vide. Oui. Pour ça, je dis l'État...
Que ça rentre dans quelque chose qui va être soutenu.
Ça rentre dans quelque chose d'organisé, de soutenu, qui savent que la roue qu'ils vont tourner, sont prêts à mettre l'épaule à la roue, mais que ça s'en va en quelque part, qu'ils ne vont pas faire ça dans le vide.
Oui, c'est ça.
Et moi, je les comprends totalement de ce côté-là. Donc, ils veulent s'assurer que ça rentre dans une grande vision puis que leur contribution va être pertinente.
Oui.
Parce que pourquoi faire des efforts si, finalement, ça aboutit nulle part? Donc, moi, j'ai vraiment foi que les gens sont prêts à participer, sont prêts à contribuer, et je crois que ça doit commencer par l'État. Et une fois que l'État fera sa part et pourra à ce moment-là demander à la population de faire son bout de chemin, et elle sera beaucoup plus crédible, tu sais.
Mais on arrive à la fin de cette entrevue, mais moi, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où, en tant qu'humain, si on fait quelque chose, nous, de notre côté, pour nous, tous les jours, on fera bouger la politique. Parce qu'ils peuvent pas... nul ne peut survivre si on n'obéit plus ou si on n'a plus envie de quelque chose. Donc, on peut aussi inciter le gouvernement à faire bouger des choses en étant nous-mêmes
aussi,
en
avant. Actuellement, ça va pas assez vite. Actuellement, il faut vraiment que ça passe par des choix politiques et non pas juste par de la sensibilisation puis dire le gouvernement, parce que là, c'est des pas de tortue et
d'accord.
Un pas en avant, deux pas en arrière. Et la crise climatique, elle est là et on va frapper un mur. Ce n'est pas suffisant. Les marches, moi, je participe à ces marches-là,
oui,
c'est très
ça.
Bien, mais on voit que le gouvernement va quand même faire son troisième lien. Peu importe
c'est
les marches,
ouais,
il va faire son troisième lien.
Les marches, c'est des gestes qui sont à poser.
Oui,
enfin,
mais
on n'a pas le temps d'en parler
plus. C'est pas
mais...
ça qui va faire changer d'avis le gouvernement, c'est le vote à l'élection
qui
fait changer
l'avis
du gouvernement. Donc, c'est là, il faut que les citoyens reprennent leur pouvoir. Le pouvoir citoyen, il est très fort en autant qu'on l'exerce. Et les politiciens ne sont pas tous pareils.
C'est vrai.
Ils ne sont pas rendus au même niveau. Il y
en
a qui sont plus avancés.
En même temps, si on ne se sert pas de sa voiture quand l'essence augmente beaucoup et qu'on fait perdre des millions à des grosses entreprises, peut-être que ça peut faire bouger des choses. Enfin, j'y crois encore, moi. Martine, merci beaucoup, Martine Ouellet, d'avoir été avec nous. Je sais que Martine doit s'en aller. Par contre, il y aura une petite surprise qu'on va t'envoyer bientôt, c'est-à-dire qu'une de nos chroniqueuses ici, a écouté l'entrevue, elle a créé une chanson suite à ce qu'elle a entendu de toi, et après, ben voilà, ça sera envoyé,
super.
Ça sera une chanson
oui.
cadeau.
Ah oui,
voilà,
elle était vraiment extraordinaire comme artiste.
Elle a beaucoup de talent.
Oui,
merci
vraiment.
Beaucoup, Martine.
Ouais, merci, Martine.
Plaisir.
Merci.
Et sans que sa fin est proche, ça la rend folle. tu pleures, pourquoi la terre en aura le bonheur, point c'est tout.
Aujourd'hui j'ai de la chance, je suis encore là. Je vais pouvoir voir le ciel encore une fois. L'air pur ici aussi se fait si rare que même les clébards disent qu'il y en a marre de respirer cette merde à plein poumon. Tout ça pour qu'un petit con gagne des millions. Tu sais que notre vie de chien ne suffit bien. Pas besoin de choper le cancer des êtres humains. Nous paierons cher sans doute votre insolence. Vous jouez avec ce monde par négligence. Les frontières de vos cartes n'y feront rien. Cette terre n'est pas à nous, vous le saurez bien.
Voilà notre rendez-vous, Poussadi, avec oui, Noémie Chelariou, bien sûr. Alors,
ça, c'est le dessert, hein? C'est mon moment préféré.
c'est la petite surprise, le dessert. C'est le dessert de notre émission.
La pièce de résistance.
Alors, Poussadi, comment as-tu trouvé Martine Ouellet? Poussadi, pardon. Ben, je dis Poussadi parce que je la regarde, mais Poussadi était là. C'est Noémie, pardon.
Hi, bonjour, allô.
Allô.
J'ai aimé m'inspirer de Martine parce qu'elle m'a fait sentir la profondeur de sa relation avec l'environnement, la nature. Mm. Et puis, on aurait dit que je pouvais sentir le lien important. Je pouvais le vivre à travers elle. Moi, souvent, l'environnement, la nature, la beauté, ça m'émeut par la beauté, mais elle a vraiment comme un lien de cœur et de respect. Mm. Et c'est quelque chose d'important pour elle et j'avais l'impression de pouvoir ressentir l'importance
mm-hmm.
à travers elle, à travers son propos Et voilà, ça m'a inspirée de la voir dans la chanson. Je fais comme si je lui parlais à Martine, puis je lui demande de me parler de sa plus belle histoire d'amour.
Oh, c'est joli, ça!
C'est beau!
La plus belle histoire d'amour. Alors, on l'écoute, on en parle tout de suite après.
D'accord.
Parle-moi, parle-moi de ta plus belle histoire d'amour. Parle-moi, parle-moi de ta plus belle histoire d'amour. J'aime le sol sous mes pieds, j'aime l'air qu'on peut respirer. Par-dessus tout, j'aime préserver la nature pour l'avenir créer. Parle-moi, parle-moi de ta plus belle histoire d'amour. Parle-moi, parle-moi de ta plus belle histoire d'amour. J'aime la bonne volonté pour les peuples et tous les autres. J'aime l'égalité dans les gestes que l'on pose. J'aime l'honnêteté, j'aime la bienveillance vraie, j'aime la vérité. C'est ce qui est pour moi parfait. Alors la voilà, oui. Ma plus belle histoire d'amour. C'est une terre viable que j'aime voir durer toujours. La voilà, ma plus belle histoire d'amour. J'aime la voir durer toujours et vivre en lui rendant hommage.
Ah, Noémie.
Ouf. Moi, j'étais transportée.
Je t'ai vue.
Oui. Oh, je me suis imaginée des paysages de l'île aux coudres où j'étais, je surplombais, je survolais, puis c'est comme, j'ai tellement une affection pour les terres de Charlevoix, puis c'est comme une histoire d'amour que j'entretiens avec cette région. Alors, je ressentais ça à travers cette chanson-là. Très émouvant. Bravo. J'ai adoré.
Il y avait comme une forme d'espace. Ça m'inspirait. On dirait que on dirait que dans la voix de Martine, et puis tous les propos qui ont été relatés, il y avait quelque chose qui revenait à moi. C'est un espace pour respirer, un espace pour vibrer.
C'est ce dont elle nous a parlé, en tout cas.
C'était très, très beau. C'est un hommage... Hein, à cette terre aussi, là, qui nous accueille ici, là, moi, en tant qu'immigrante aussi. Là.
Oui.
Je trouve ça très, très beau. Franchement, là, j'ai fait plein de parallèles avec ma vie, t'sais, ce que j'ai reçu d'ici, ce que je continue à transmettre aussi. C'était très beau, franchement. Là.
Bravo, oui. T'as été bien inspirée aussi.
Oui.
Avec cette guitare. Et puis, je pense que... Eh bien, on a fait déjà plusieurs émissions, plusieurs séries de cette nouvelle émission. Et à chaque fois, je pense que tu ne vas pas dire le contraire non plus, Noémie, on a des personnages qui sont vraiment surprenants, passionnants, émouvants.
Et vrais.
Et vrais.
C'est surtout ça.
Et on a beaucoup d'affection pour eux, en tout cas.
Oui.
Oui. On parle du propos de Martine, effectivement, mais il y a quelque chose dans les émissions dans lesquelles je compose avec vous, là, qui est le privilège de pouvoir s'inspirer du vivant, hein, parce que c'est dans l'instantané, c'est dans le moment. Tu sais, souvent, on va s'inspirer d'un souvenir. Mmh. Ça arrive souvent qu'on crée en s'inspirant de souvenirs, mais là, non. Pour moi, c'est une expérience intense de l'immédiat, puis dans l'immédiat, Martine me permettait d'avoir un lien fort avec l'environnement, puis c'est un cadeau qui reste avec moi pour toujours.
Ah oui, Je comprends ça. Et de tous ceux qui sont passés et qu'on a reçus, c'est d'abord merci de leur créativité, puis de nous avoir fait partager ça, parce que c'est tous des personnages et c'est pas fini. Et on en rencontre avec Poussadi, c'est notre plaisir, parce qu'on découvre des gens, là, on est assez hallucinés par leur parcours et par ce qu'ils font.
Qui gagne à être connu.
Ouais. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est toi, Noémie, avec ta création de chanson.
Oui! C'est un cadeau qu'on se fait, là, ça n'a pas de bon sens.
Oui, c'est là-dessus qu'on finit. Quelle chance, oui, c'est vrai, tu as raison, Poussadi. Quelle chance de t'avoir là-dedans. Ouais. Alors, comme d'habitude, Noémie, on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau personnage que tu découvriras au dernier moment, comme d'habitude.
Avec plaisir.
On ne t'en parle pas, même si nous, on le sait déjà. Donc, on verra l'après, puisque c'est toujours assez fabuleux ce que tu arrives à trouver et à créer suite à ces entrevues. Merci beaucoup.
Merci, à la prochaine.
On se quitte en chanson.
Ce sont de jeunes gens qui ont fait alliance ensemble à la première nuitée. Ils ont couché ensemble. Oh mon époux, bien vite levez-vous. Je crains de ne pas finir mes jours. Faut que j'en décousse, décousse le velours.